Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir Marie Barraud, merci d'être avec nous ce soir à Bordeaux pour la seconde fois.
Oui.
Et donc à la librairie Mola, dans cette belle salle Ozone, ouverte récemment, pour le roman que vous avez publié tout dernièrement, Nous les passeurs. Donc. Alors roman, le terme fait un petit peu bizarre quand il s'agit de Marie Barraud parlant de son grand-père et de sa famille, le docteur Albert Barraud, son fils, Roger et le frère...
Jean-Pierre,
voilà, c'est ça, pardon. Et donc, la famille et les répercussions sur cette famille des événements et surtout des non-dits autour de ces événements. Donc le terme roman, dans un contexte aussi précis et encore une fois à Bordeaux particulièrement précis, crée une surprise. Est-ce que vous pouvez commencer par cette explication du terme roman ?
Malheureusement, je ne sais pas si je pourrais être... je pense que la maison Robert Laffont pourrait être beaucoup plus précis que moi là-dessus. On en a longuement parlé. Il est vrai que récit pouvait être peut-être plus adapté. Je pense qu'ils ont décidé de partir sur le roman très sincèrement pour essayer de toucher le plus grand nombre. Récit parfois peut rebuter certaines personnes et il y avait toute une donnée historique qui était importante à leurs yeux et qui pour eux était beaucoup plus sous l'axe du roman beaucoup plus évidente.
Alors personnellement, j'ai une hypothèse,
Vous allez m'éclairer.
C'est que le livre mérite l'étiquette roman par son écriture.
Je suis très touchée.
Mais nous y reviendrons tout à l'heure. Alors Marie Barraud, Barraud comme Jean-Louis Barraud, vous êtes aussi comédienne.
Je vous aime, mais parfois il m'arrive mais de dire oui, bien sûr, je suis de la même famille.
Voilà, mais ça ne
quand ça peut m'arranger.
Mais ce n'est pas la même famille et ça ne s'écrit pas de la même façon.
Non.
Et donc Barraud, c'est un nom de famille bien connu à Bordeaux et en particulier le docteur Albert Barraud, ne serait-ce que parce qu'il a à Bordeaux une grande rue. une grande rue qui va de la rue Capdeville à la rue Fondaudet, derrière le palais Gallien, et qui appartient au quartier Saint-Seurin, donc que tout le monde connaît. Mais il a aussi une crèche, Albert Barraud, il y a aussi une école, Albert Barraud. Donc Albert Barraud, c'est une personnalité bien connue à Bordeaux, bien connue peut-être pas. Et
mais
c'est là où vous
mieux.
Apportez... Voilà, maintenant beaucoup mieux connu, effectivement. Et à travers donc, votre grand-père, vous abordez un sujet qui touchera tous les lecteurs, pas seulement les Bordelais, bien entendu. C'est le sujet des répercussions familiales, transgénérationnelles, si on peut dire, d'un non-dit, d'un secret. Et ce secret, eh bien, il palpite dans ces pages, hein, du début à la fin, et on tremble d'apprendre des choses qu'on n'aimerait pas apprendre. Donc il y a aussi ce côté un peu haletant, enfin en tout cas très, très prenant, de l'enquête. C'est presque une enquête au sens policier du terme. Mais ce n'est pas sans doute le cœur du livre. Hein. Le cœur du livre, c'est de savoir pourquoi ce héros de la résistance... pourquoi sa disparition a créé dans toute la famille, à commencer par sa femme, bien entendu, sa veuve, au bout d'un moment, hein, mais au départ, il était disparu. Puis petit à petit, on en a su beaucoup plus hein, sur cette période 39-45. Et donc, des répercussions sur ses enfants et même sur vous.
Bien sûr.
À la deuxième génération.
Bien sûr. C'est vraiment, pour moi, c'est un livre sur la transmission. J'ai beaucoup appris sur la transmission. Aujourd'hui, je suis maman d'un petit garçon de 4 mois et je me rends compte à quel point les enfants sont des éponges et malheureusement, le mal qu'un silence peut leur faire. Et je sais pertinemment que ma famille, mon père, ma grand-mère, ne pensaient pas à mal en taisant tout ce qu'il y avait à terre autour de ce héros. Très sincèrement... Après mieux réflexion aujourd'hui, je me dis comment un petit garçon peut arriver à comprendre que son papa, qui a eu l'occasion, plus tard il a appris, comment il peut accepter que son papa, qui a eu l'occasion de s'enfuir, de venir retrouver les siens, a pu choisir de rester dans les camps et de continuer à soigner et sauver ses malades. Je pense qu'un petit garçon ne peut pas comprendre. Donc l'homme raisonnable que mon père est devenu, quand il s'agissait de parler de son père, c'était le petit garçon. C'était le petit garçon déraisonné qu'il était et qui n'avait de cesse d'être en colère contre son père et de lui en vouloir de ne pas être revenu.
Oui, et donc il y a aussi ce paradoxe dans le sentiment inspiré par un héros, qui dans le public est tout d'admiration, d'amour même, et donc ce paradoxe d'une colère du petit garçon, et une colère dont il ne s'explique pas lui-même la teneur ou même l'origine, et ça aussi c'est finement, je ne dirais pas analysé, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a de l'analyse dans le livre, et c'est aussi ce qui le rend tellement touchant, c'est qu'il y a simplement l'expression des émotions au fil de l'enquête et la mémoire de ces émotions à travers l'écriture.
J'ai vraiment... Tout a commencé par cette colère. Et je pense que nos ancêtres nous transmettent bien plus que leur nom. Et mon père m'a transmis cette colère-là et j'ai fait énormément de travail là-dessus pour essayer de comprendre l'origine de cette colère qui était la mienne, et j'ai rapidement compris que donc elle n'était pas la mienne et qu'on me l'avait transmise, et du coup j'ai essayé de comprendre d'où venait celle de mon père, et j'ai rapidement compris que ça ne pouvait pas être uniquement un trait de son caractère. Il y avait une origine beaucoup plus profonde, parce que il n'arrivait pas lui-même à la maîtriser. Et c'est alors après pourquoi je suis allée chercher du côté de mon grand-père pour essayer de comprendre l'origine de cette colère. Ça, je ne pourrais pas vous le dire. Mais encore une fois, je pense que j'ai été aidée et accompagnée par lui, par mon grand-père.
Mais ce mouvement de remontée d'une génération à l'autre, cette remontée, c'est l'analyse au sens étymologique du terme. Hein, on remonte vers les causes. Alors, en remontant de vous à votre père et puis de votre père à votre grand-père, finalement, on ne fait que suivre le fil des générations à l'envers. Et quand vous dites que vous avez maintenant un enfant de 4 mois, on peut-être penser qu'il n'y a pas de hasard et que 13 mois, il y a 13 mois... Peut-être, ou peut-être quelques mois avant, je ne sais pas, mais l'idée a germé de faire ce livre.
Bien sûr, je pense qu'il n'y a pas de hasard. C'est un petit garçon. Je lui ai bien évidemment donné comme deuxième prénom Albert. J'espère que ce n'est pas trop lourd à porter pour lui. On verra plus tard. J'espère, en tout cas. Je l'ai fait en espérant que mon grand-père l'accompagne, l'aide à grandir. Et parce que je sais qu'avec mon frère, quand nous sommes partis dans le camp de Neuengamme et que nous nous sommes retrouvés sur la baie de Lübeck où il est mort, je sais et j'en suis sûre qu'il était là et qu'on l'a ramené. Donc, je pense que maintenant, il y a moins de douleur. La douleur est toujours là, bien sûr, on ne peut pas l'effacer. Il y a moins de douleur et du coup, je pense que j'étais peut-être prête à... enfin donner la vie et ne plus transmettre cette colère. J'espère, en tout cas.
Donc, c'est peut-être en sens inverse, quoi.
Oui, voilà.
C'est le livre qui a délivré...
Oui, je pense.
D'accord.
Je pense.
Oui. Et alors, vous racontez presque la fin, mais après tout, c'est de l'histoire avec un grand H.
Ouais, on sait comment ça se termine, malheureusement. On sait, ça, on ne pourra pas le changer.
On connaît aussi le drame de la belle Lübeck, on le retrouve dans d'autres livres. On a aussi le témoignage très précieux de René Joly, tout ce qu'il a fait jusqu'à sa mort en 2015 auprès des élèves de collège et de lycée, justement pour passer cette mémoire. Hein, le titre du roman, « Nous les passeurs ». Alors, nous, vous... Évidemment, on peut penser que c'est d'abord vous et votre frère,
bien sûr.
Mais au-delà, c'est sans doute aussi René Joly, des hommes comme lui.
Bien sûr, et je pense très sincèrement, chaque lecteur ensuite, vraiment, je pense qu'on est tous des passeurs de cette histoire, et je me suis rendu compte par la suite que les gens qui ont été extrêmement touchés par ce livre m'ont écrit par la suite et se sont épanchés et m'ont beaucoup parlé chacun de leur propre histoire. Et je me suis rendu compte que tout le monde avait en lui un secret caché qui avait été lourd à porter. Et je leur ai dit, j'ai essayé de répondre à chacun d'entre eux de façon un peu large. Et je leur ai dit, soyez tous le passeur de votre histoire. Vraiment, j'y crois. Et je pense que c'est... Seul ne meurt vraiment que ce que l'on oublie, j'y crois vraiment. Et c'est la première phrase qui m'est venue, comme le titre d'ailleurs. Après, très sincèrement, je l'avais intitulé « Les passeurs ». Sauf que ce livre existait déjà. Et donc mon éditeur m'a dit, va falloir changer le titre. J'ai dit, non, c'est pas possible. C'est absolument inconcevable. Et donc j'ai tergiversé, et je crois que c'est maman. Je crois que c'est ma maman qui m'a dit, et nous les passeurs, qu'en penses-tu? Et je trouve ça encore mieux. Donc il n'y a pas de hasard.
Oui, c'est tout. Ouais. Ça résonne avec chacun.
Voilà, exactement. Ouais,
oui. Le nous est beaucoup plus
enveloppant,
enveloppant, chaleureux oui. aussi, oui. émotionnellement proche. Oui, c'est bien meilleur. Effectivement. Voilà. Félicitations à la maman. Et félicitations aussi à l'éditeur Robert Laffont, oui. qui a eu le flair de repérer ce manuscrit.
Ça a été une grande chance pour moi. Oui. Cette grande maison, ça a été quelque part, ça me. Oui, il a donné une force à cette histoire qui m'était très personnelle, et c'est lui qui l'a rendue universelle en acceptant de l'éditer, c'est sûr.
Oui, il a permis bien sûr la diffusion, mais c'est vous quand même qui l'avez séduit, en somme, oui. convaincu en tout oui. cas, et très vite, si j'ai bien compris.
Oui, ben ça s'est fait assez rapidement, oui. Je pense qu'entre l'envoi du manuscrit, j'ai dû attendre un mois et demi. Un mois et demi, deux mois, ce qui est rien.
Non.
Vraiment.
Oui, vu ce qui arrive dans les boîtes aux lettres des éditeurs. Et...
C'est ça.
Oui. Donc, on a tout de suite compris que c'était un grand livre, un livre fort, un livre qui touche aux larmes, qui touche les lecteurs.
Mais vraiment que j'aurais pas pu le faire sans Roger Joly. Ça, c'est une évidence. Ça a été une rencontre absolument merveilleuse. Il aurait dû signer ce livre avec moi. Malheureusement, il est parti assez rapidement après notre rencontre. Et encore une fois, là, il n'y avait pas de hasard. Moi, je pense qu'il m'attendait.
Oui.
Il avait besoin de me transmettre. Et encore une fois, je le raconte dans le livre, mais à la fin de notre entretien, il m'a dit « Il faut que votre père lui pardonne. Aidez-le. »
Oui.
Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, j'avais
une mission.
Il fallait que j'aide mon père à faire la paix avec le sien, et seul Roger savait, seul Roger pouvait connaître l'origine de cette colère. Il en savait bien plus que moi, finalement.
Oui.
Et il me l'a très intelligemment fait comprendre, sans me le dire ouvertement, parce que j'aurais pu me braquer, très certainement. Et parce qu'il avait, lui, essayé de rentrer en contact avec papa à plusieurs reprises. Et toutes ces conférences, c'est fou, toutes ces conférences qu'il a pu faire sur mon grand-père. Je n'ai jamais pris connaissance de ça, je ne savais pas. Je n'ai jamais assisté à aucune conférence. Et c'est vrai que quand j'ai commencé mes recherches, j'ai été prise d'une jalousie féroce de me dire « Mais tous ces gens qui en savent autant sur mon grand-père, et moi qui suis si
à l'écart,
j'avais besoin de récupérer un morceau de mon histoire. »
Vraiment. Quand vous dites
je me
d'ailleurs,
sentais totalement orpheline de ça.
Quand vous le rencontrez et qu'il vous parle 4 heures et que vous lui prenez immédiatement la main, oui. finalement, comme si c'était la main de votre grand-père, presque.
Mais vraiment,
c'est une scène très forte qu'on retient, oui. Qu'on retient à la lecture.
Oui. C'est une sensation. Vraiment, c'est un livre sur la sensation. Je l'ai écrit d'une traite. Et c'est ça qui est fou, c'est que je suis partie en résidence en Italie pour l'écrire parce que j'avais besoin d'être totalement disponible à cette histoire et à mon grand-père. Donc je suis partie avec mon ordinateur, une photo de lui qui était sous mon nez toute la journée. J'écrivais 6 heures par jour sous les toits dans une résidence en Italie. Et j'ai écrit non-stop. Et le lendemain, je me remettais à l'écriture sans jamais relire ce que j'avais écrit la veille. Et le livre, dans l'état, c'est ce que j'ai écrit sans jamais le relire.
Oui,
donc ça a été vraiment de façon très instinctive. Il y avait une urgence, une nécessité émotionnelle que les choses sortent en l'état. À tel point que quand mon éditeur m'a dit « c'est extraordinaire, nous l'éditons », j'ai été prise de panique. Je me suis dit « il faut que je réécrive tout, c'est pas possible, on peut pas éditer un truc pareil ». Et j'ai commencé à réécrire, faire des très longues phrases avec des mots très intelligents. Et il m'a dit « non, on va revenir à la première version ».
Oui, il y a une justesse. Alors, je ne sais pas si c'est votre premier jet, mais en tout cas, c'est d'une justesse. Il n'y a rien à changer, quoi. C'est presque un poème, en fait. C'est presque un poème. Et tout se déroule, effectivement, en accompagnant le lecteur. Enfin, on est accompagné du début à la fin de manière très progressive, très douce, très facile, pour des choses très difficiles, finalement.
Oui.
Et ça aussi, c'est la force vraiment de votre livre.
J'espère en tout cas ne pas... Voilà, ne... j'avais... C'est compliqué d'arriver à raconter notre, une histoire personnelle tout en, en restant pudique. J'espère avoir réussi à toucher, transmettre, sans être trop impudique. J'espère en tout cas.
Oui, je ne crois pas. Vu les résonances que ça évoque, comme vous le dites, hein, dans tous les milieux, dans toutes les familles, tous les lecteurs reconnaissent finalement un petit morceau de leur oui. propre histoire. Mm-hmm. Donc, mm-hmm. Dans le partage, il n'y a pas d'impudeur. C'est du partage. C'est du passage.
C'est ça, c'est du passage.
Voilà. Oui. Et donc, au fur et à mesure de cette enquête... difficile, mais en même temps...
Nécessaire.
Nécessaire, exactement, et juste. On passe par des émotions... Enfin, vous passez, mais nous aussi, lecteurs, par des émotions un peu contradictoires, enfin, en tout cas, diverses, hein, de l'angoisse, de l'espoir, et à la fin, une vraie délivrance. Une vraie délivrance. Alors, vous racontez une expérience presque mystique, mais que parallèlement, vous et votre frère avez faite de la même façon, oui. exactement. Donc c'est très fort, ça
bien
aussi.
Sûr.
Et le lecteur ne peut qu'être heureux du dénouement qu'on ne racontera pas ici.
Non.
Même si, bon, encore une fois, c'est historique. Hein,
bien
mais,
sûr.
Mais votre recherche à vous, elle apporte quelque chose à l'histoire objective.
Ce qui est finalement, le lecteur découvre effectivement l'histoire, mais je peux vous assurer que chaque événement qui s'est produit, je l'ai découvert, je l'ai vécu, je n'ai rien cherché. Et les choses sont arrivées à moi, ce qui s'est passé sur cette baie de Lübeck, je ne suis pas allée chercher quelque chose. Je ne partais pas en Allemagne en espérant chercher, trouver une réponse pour mon père et revenir avec une réponse qui aurait pu l'apaiser. Je suis partie pour essayer de comprendre uniquement. J'aurais pu revenir avec un sac émotionnel totalement vide, parce que je ne vous cache pas que quand on arrive dans le camp de Neuengamme, c'est une blague. On se croirait à Euro Disney. C'est drôle parce que j'ai envoyé une photo à mon père de la place d'appel. Et mon père m'a dit, il ne manque plus que des géraniums aux fenêtres. Mais c'est vrai. Et ce qui est fou, c'est que la sensation que j'ai eue, et c'est ce que j'écris encore une fois, parce que je ne fais que retransmettre ce que j'ai ressenti, ils sont dans l'incapacité d'enlever aux pierres de ce lieu ce que les pierres ont conservé de l'histoire. C'est-à-dire qu'on a beau voir, parce que c'est plutôt bien fait, c'est vraiment un musée, et en fait l'horreur est là, à chaque recoin, à chaque... Alors en plus de ça, je suis arrivée, le temps était effroyable, il y avait une petite pluie, un vent glacial, et qui a participé effectivement à retransmettre et à ressentir l'horreur que ces gens ont pu vivre... pendant tous ces mois, une année et demie pour mon grand-père. Donc, je ne sais plus où j'en étais. On digresse et je ne sais même plus s'il y avait une question.
On parlait des émotions ressenties
oui,
au fil du livre, au
bien
fil
sûr.
De l'enquête, et aussi de ce sentiment d'apaisement et de délivrance que le lecteur aussi ressent à la fin. Hein, parce que le fil est renoué, parce que oui. la famille aussi retrouve une paix, mais surtout comprend l'enchaînement finalement
des événements.
Des événements, mais pas seulement des événements, des répercussions dues à ces événements. Alors, on a beaucoup parlé, c'est vrai, de la guerre 39-45 et des camps de la mort et de la difficulté pour les survivants des camps à parler hein, pendant deux générations. Hein, ils ont parlé là in extremis. Hein, mm-hmm. Et on s'en est étonné, mais on se l'explique de mieux en mieux, bien sûr, étant donné le contexte de la sortie de la guerre en France. En revanche, on a très très peu parlé, et c'est là aussi où vous apportez quelque chose de neuf, on a peu parlé du silence qui a pesé sur les familles des disparus.
Les disparus.
On en a beaucoup moins parlé.
Bien sûr, mais je suis heureuse d'avoir pu offrir un témoignage, parce que c'est, je me rends compte à quel point les mots peuvent réparer, mais vraiment, c'est incroyable la réparation et la capacité que peuvent avoir les mots, l'écoute. Faut parler, voilà, c'est une évidence. Et en tout cas, moi, je pense que les discussions que j'ai eues avec mon père, le fait de lui offrir cette occasion de pouvoir parler, je pense qu'il en est heureux aujourd'hui, vraiment. Et quelque part, je pense que bien sûr, il a parlé un peu trop tard, mais il a parlé. Et c'est vrai que de parler à 70 ans, il y a quand même 70 années durant lesquelles il s'est tu et où il a souffert en silence et où il a malheureusement un peu dilapidé cette colère. Et on l'a reçu, nous, ses enfants, sa femme, mais il n'est jamais trop tard. Et je pense qu'on a brisé ce lien de la douleur. Je crois qu'on l'a brisé pour nouer... lier autre chose. Et encore une fois, je pense que les enfants de cette famille Barreau qui vont venir, les petits-enfants, les enfants de la plus grande fille de ma sœur qui a 12 ans a pu lire ce livre. Et je suis heureuse parce qu'elle a compris, on en a beaucoup parlé. Et elle comprend beaucoup mieux mon père maintenant, son grand-père, qu'elle trouvait anormalement en colère et... Et je trouve ça bien. C'est bien de parler. C'est bien.
Oui, tout à fait.
C'est une bonne chose.
Oui, c'est un livre d'amour. C'est très clair. Et c'est aussi ce qui touche beaucoup. Parce que vous faites un geste d'amour pour votre père et qui vous entraîne bien au-delà, finalement. Et qui va aider toute la famille, mais votre enfant aussi.
Oui.
Et vous-même.
Oui.
Ça aussi, c'est peut-être la surprise du livre. Quand vous dites... Finalement, c'est moi
qu'ils ont libéré.
C'est moi qu'ils ont libéré, oui.
Oui, oui.
Oui. Alors, est-ce qu'il a fallu ces trois générations pour enfin parler? Il reste le mystère de l'épouse, de la mère.
Oui, malheureusement, elle n'est plus là et on n'en a jamais parlé ensemble. Elle ne m'a jamais parlé de mon grand-père. Et encore une fois, on ne peut pas en vouloir à des enfants de ne pas avoir posé des questions. Comment poser des questions sur une chose qu'on ne connaît pas, dont on n'a jamais entendu parler? On a d'autres chats à fouetter quand on est petit.
Ou même on intègre cette
oui, on
ce tabou.
Oui, c'est ça, on intègre le tabou, on intègre le silence. On le fait nôtre. Mais je ne lui en veux pas à cette grand-mère. Elle a fait beaucoup de mal à ses enfants, mais sans le savoir.
Oui, sans
on gère. Je pense qu'ils ont, comme vous dites si bien, je pense que ceux qui ont perdu des maris, des femmes... Je pense qu'on ne peut pas, on ne pourra jamais se mettre à leur place. Je ne sais pas comment j'aurais réagi. Elle a réagi comme elle a pu. Elle a fait de son mieux.
Oui.
C'est compliqué. Mais je suis heureuse moi aujourd'hui d'avoir fait le chemin jusqu'à eux. J'espère avoir réparé certaines choses. Et c'est un plaisir immense d'avoir pu le transmettre au plus grand nombre grâce à la sortie de ce livre. Très heureuse.
Et ce qui reste, c'est aussi la fierté d'avoir ce héros dans la famille.
Bien sûr. Alors, c'est pas un sentiment de fierté, vraiment. Je pense que le silence a fait que la fierté, on ne peut pas la ressentir. Je crois juste qu'on l'a récupéré. Ça fait du bien, en fait. C'est juste qu'on se sent un peu plus... La famille est réunie au grand complet. Je pense que c'est ça, surtout. Il est revenu, il nous a terriblement manqué dans des douleurs inexpliquées qui étaient les nôtres. Il nous a manqué dans ces moments-là. Donc, c'est pas de la fierté. Je suis heureuse qu'il ait fait. Je suis fière qu'il ait fait tout ce qu'il a fait. Mais je pense qu'il a fait ce que chaque être humain, de sa condition, c'est-à-dire un médecin, encore une fois, c'est une vocation.
Oui.
Il a fait tout ce que tout médecin aurait dû faire.
Voilà. Mais c'est quand même rare, la résistance, contrairement à ce que prétendu
Oui.
Après la guerre,
un certain nombre d'individus. Voilà,
exactement. Il y a eu ce mythe de la résistance française, mais en réalité, très peu nombreux étaient les résistants, on le sait. Mais à Bordeaux, et en particulier à l'hôpital Saint-André, déjà, il y avait un noyau extrêmement construit, extrêmement fiable, et qui s'est distingué pendant des années. Par ses actes de...
Bien sûr, et quand mon grand-père a été dénoncé et qu'il est parti dans le camp de Neuengamme, un homme a pris sa relève.
Le docteur
Poineau. Exactement. Et jusqu'au bout, c'est fou, jusqu'au bout, pas un seul infirmier, pas un seul médecin n'a fait exploser le noyau de cette résistance. Ils ont tenu bon, malgré tout.
Oui, oui. Grâce évidemment à leur héroïsme individuel, mais aussi à une organisation parfaite.
Quand on lit les
documents historiques sur cette organisation, on est très impressionné, parce que tout était prévu et on pouvait à la fois soigner un officier SS et...
Exact, et dans la chambre à côté.
Donc ça, c'est vraiment... C'est épatant,
extraordinaire.
On va dire. Tout à fait. Et ça s'est passé à Bordeaux, ça s'est passé à l'hôpital Saint-André, ça s'est passé aussi en Dordogne. Enfin,
bien sûr.
La région a été aussi particulièrement distinguée pendant cette période difficile.
L'homme qui est venu arrêter mon grand-père dans son cabinet rue Fondaudège a arrêté beaucoup plus de résistants que l'armée allemande elle-même.
Oui.
Il en était extrêmement fier et c'était un policier français.
Oui, vous le racontez aussi.
Oui.
Et jusqu'au bout, il a revendiqué son infamie.
Bien sûr. Il y avait de sacrés collaborateurs, oui.
Oui, oui. Mm. Oui, c'est très impressionnant. La diversité humaine...
Oui, est riche.
Oui, voilà. Du meilleur et du pire. En tout cas, on découvre... on est invité aussi à creuser quand on ne connaît pas tous ces événements et quand on ne connaît pas le personnage historique du docteur Albert Barrault. Votre livre invite aussi à la curiosité historique et à creuser ces hauts faits ou au contraire ses bassesses.
Donc
c'est aussi un intérêt, sans être un roman historique, bien sûr, pas du tout, mais le livre présente vraiment un intérêt historique.
J'ai eu l'occasion, à travers mes multiples recherches, et grâce à Roger Joly, il m'a fait part d'une opération avec le docteur Vessière, qui était en médecine avec mon grand-père. Ils se sont retrouvés tous les deux dans le camp de Neuengamme à la sortie du train qui les a amenés de Compiègne à Neuengamme pendant les 3 jours. À la sortie du train, Vessière est la première personne que mon grand-père a serrée dans ses bras avant de rentrer dans le camp. Et ils se sont retrouvés tous les deux donc à l'infirmerie du Revire, à l'infirmerie du camp, pardon, qui s'appelait le Revire. Et grâce à Roger Joly, j'ai eu les détails d'une des nombreuses opérations qu'ils ont pu faire à l'intérieur du camp. Et voilà, je voulais parler du docteur Vessière parce que ça fait partie de ces hommes qui ont une place importante dans le camp et qui ont sauvé énormément de gens. Et lors de cette opération-là en particulier, je sais que malheureusement, mon grand-père a flanché parce que c'était humainement bien trop effroyable. Et Vessière a eu le courage d'aller jusqu'au bout. Et voilà, donc ils se sont eux-mêmes entraidés entre eux.
Oui.
Donc voilà, mon grand-père a fait des choses extraordinaires, mais il y avait... Voilà, parfois, humainement, c'est tellement effroyable ce qu'ils ont eu à vivre, qu'ils se sont les uns et les autres entraidés pour jusqu'au bout arriver à aider le plus grand nombre.
Oui, tout à fait. Ce que Primo Levi raconte aussi,
si c'est un homme.
Voilà. Oui. Il y a des conditions où vraiment c'est l'humanité même qui a été visée.
Bien sûr.
Chez les déportés.
Bien sûr.
Et tout était fait pour les détruire avant de les tuer, en fait. Et donc... ce Revire, vous le décrivez aussi en détail.
C'est fantastique.
Vous avez beaucoup, beaucoup recueilli de détails et d'éléments qui nous émeuvent aux larmes.
C'est extraordinaire de se dire qu'il y a eu à l'intérieur de ce camp, il y avait un endroit où la vie était encore la priorité.
Oui, et notamment pour votre grand-père.
Oui, vraiment. vraiment, c'était d'arriver à faire abstraction totale de ce qui est en train de se passer.
Oui, oui.
Et d'essayer malgré tout de croire et d'espérer que la vie l'emportera.
Oui, c'est ça. Et tenir le serment d'Hippocrate, même si c'est pour une heure, même si c'est
exactement.
Pour un jour. C'est aussi exactement. Ça qui est vraiment bien rendu dans.
Ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai réussi à retrouver un papier qui retranscrivait à la perfection les mots qu'a eu mon grand-père. Donc, ce qui a été très émouvant pour moi, c'est que j'ai lu des mots qu'il a prononcés lui-même. Donc là, ça l'a rendu encore plus réel pour moi.
Oui.
Et où il exprimait la colère profonde qu'il avait contre les Allemands, qui lui imposaient de choisir. Alors qu'effectivement, ce serment d'Hippocrate fait qu'il avait choisi un métier qui faisait qu'il ne faisait aucune différence. Et là, malheureusement, il se devait, à l'entrée du revers, de choisir le moins mal en point, parce qu'il n'avait pas assez de lits, et qu'il préférait effectivement choisir ceux qui avaient une chance de survivre. Et il laissait malheureusement de côté ceux qui, malheureusement, n'avaient aucune chance de survivre. Et ça, pour lui, ça a été quelque chose d'effroyable à accepter, de devoir choisir. Et pour ça, il en a beaucoup, beaucoup voulu aux Allemands.
Oui, c'était concerté. Enfin, on connaît des livres comme Le choix de Sophie, où justement les Allemands jouaient sur cette corde-là.
Bien sûr.
Et,
bien sûr.
Encore une fois, pour déshumaniser.
Totalement.
Oui.
Les Allemands assistaient aux opérations qui se faisaient à l'intérieur du revers, en espérant bien évidemment que chaque pauvre homme sur la table d'opération passe l'arme à gauche et. Et heureusement, grâce à Vessière, grâce à mon grand-père, ils en ont sauvé beaucoup.
Oui.
Oui.
Oui, c'est un modèle qui maintient une flamme. C'est aussi ça qui est important. Et même à Lübeck, finalement, jusqu'au bout, il y a une flamme qui est préservée.
Oui, oui, oui. L'espoir. L'espoir fait faire des choses extraordinaires. C'est vrai que quand ils sont montés dans ce bateau, mon grand-père pensait encore qu'ils s'en sortiraient.
Oui. D'ailleurs, ça aurait pu marcher.
Comme dit Roger Joly, parce que j'ai eu du mal à comprendre, je me suis dit, après tout ce qu'il a vécu, son arrestation, il aurait dû être pendu, il aurait dû être fusillé.
Oui.
Et comme son grand-père était colonel, donc mon arrière-grand-père était colonel, parce qu'il était colonel, les Allemands, il a eu un traitement de faveur, mon grand-père, et donc il n'a pas été fusillé sur le champ, il a été déporté.
Mais
donc,
déjà
là, il a de la chance. Donc, quand il est arrivé dans les camps, on lui demande sa profession, médecin, il a de la chance là
aussi.
Voilà,
les pianistes et les médecins pouvaient survivre.
Exactement. Donc, il a été dans le camp, il a pu avoir quelque part, c'était un traitement de faveur parce qu'il n'était pas dans le camp de travail, il n'a pas eu à subir les appels sur cette place effroyable, de froid. Et je disais à Roger Joly, je lui disais, mais pourquoi ? Comment ? Pourquoi est-il mort, là, dans ces conditions, alors que vraiment, c'était la fin de la guerre, tout était terminé. Et Roger, c'est ce qu'il m'a dit, c'est le fatum, c'est le destin, c'est comme ça. Sa mission était terminée. Alors, vous imaginez, pour mon père, entendre ça.
C'est dur, oui.
On peut pas.
Cette phrase, elle fait bondir.
On ne peut pas accepter de se dire... sa mission sur Terre, c'était d'élever ses enfants, de voir ses petits-enfants naître.
Bien sûr, son petit garçon avait besoin de lui, le grand frère aussi.
C'est pour ça que je comprends la colère de ceux qui restent.
Oui, ça c'est inacceptable. Peut-être aussi qu'il se sentait protégé, comme dans les mémoires de Stéphane Hessel, il raconte aussi qu'il a échappé à la mort des dizaines de fois, mais qu'il se sentait immortel ou invincible. Et c'est peut-être aussi...
Tous les gens qui sont revenus et qui ont parlé de cet attachement que mon grand-père avait en la vie, en l'espoir.
Oui.
Il était persuadé qu'il avait une bonne étoile.
Cette confiance.
Cette confiance. Mais sans cette confiance-là, on ne fait pas ce qu'il a fait, je pense.
Oui, c'est ça. En fait, la pensée de la mort ne vous effleure pas. Même si on y est confronté à chaque instant. Ouais. Oui, il y a des témoignages aussi sur cet état d'esprit qui aide à survivre et qu'on a naturellement. Qu'on ne calcule pas, mais,
bien sûr.
Mais qu'on a la chance d'avoir ça aussi. C'est une grande chance, certainement, mais qui n'a pas pu être efficace jusqu'au bout.
Non. Ou si elle a été efficace jusqu'au bout et il est
d'une certaine
comme
manière.
Il devait partir.
Voilà.
Oui, oui.
Oui, oui. D'une certaine manière.
Tout à fait.
Alors, on peut dire aussi que dans votre famille, il y a beaucoup de médecins, beaucoup de thérapeutes.
Oui.
Et qu'à votre manière, vous en êtes une.
Oui, quelque même part, si c'est ce que je...
Alors, vous êtes artiste.
Peut-être que je me dis ça pour essayer quelque part de me réconforter par rapport au fait que je n'ai pas su prendre la relève. Mais quelque part, quand je suis sur scène et que je joue au théâtre et que j'ai la chance parfois que des spectateurs m'attendent à la sortie, et quand j'ai des femmes, souvent des femmes parce qu'elles ont... Elles s'épanchent plus facilement, qui tombent dans mes bras en pleurs, parce que bien évidemment, j'aime les rôles compliqués, les rôles un peu douloureux. Et du coup, quand j'ai cette chance d'avoir des femmes qui viennent s'épancher et qui viennent me remercier du bien que je leur ai fait, eh bien, je me dis que quelque part, moi, je soigne par les mots et que quelque part, mon grand-père m'aura transmis cette capacité qu'il a et qu'il avait à soigner, à donner, à transmettre. Ma sœur l'a eu naturellement parce qu'elle a fait médecine, mon frère pareil, mon père pareil, mon oncle pareil. Donc je suis un petit canard boiteux, mais qui quand même.
Non, au contraire, ce sont les destins boiteux que vous remettez d'aplomb.
Oui, oui, peut-être que cette fibre artistique...
En tout cas, on sait de mieux en mieux aujourd'hui, et c'est vrai qu'on ne le savait pas dans les années 50, que le corps a besoin de vérité. Ouais. La santé passe par les mots, parce que le corps a besoin de vérité.
Ça, je crois.
Et que tout secret, finalement, fait souffrir, mais y compris physiquement.
Oui, je pense que l'esprit, la pensée crée, et comme la pensée crée, je pense que la pensée peut aider le corps à aller mieux, les mots peuvent aider le corps à aller mieux, ça c'est sûr. Et le corps a une mémoire, et je pense que les mots peuvent aider le corps, effectivement, les mots de ce livre, les mots d'un médecin envers son patient, c'est ce qu'il disait, mon grand-père. Mon grand-père disait que dans le revire, il se rendait compte à quel point les trois aspirines qu'il avait, finalement, c'était pas ça qui maintenait en vie ses patients. C'était cette capacité qu'il avait à leur transmettre la foi.
Oui, les paroles de réconfort, ouais, qui marchaient mieux que les médicaments. Oui. C'est vrai que c'est une phrase qui frappe aussi, qui fait un peu sursauter, mais c'est tellement vrai.
Mais on le sait aujourd'hui.
Oui, tout à fait. On parlait de votre écriture tout à l'heure et de la poésie, de votre fil de la plume. Il y a un passage qui m'a beaucoup plu. Je voudrais le lire. Vous me direz si vous êtes d'accord avec moi. Je me souviens très précisément de l'un de ses rêves. C'était une belle fin de journée de septembre, le fond de l'air était encore chaud. Nous marchions sur la plage, les pieds nus, de l'eau jusqu'aux chevilles. Il avait le visage sombre ce jour-là. C'était une expression que je ne lui connaissais pas. J'avais tant lu sur sa joie de vivre et l'espoir qu'il portait chaque jour, tel un étendard, que je me suis surprise à rêver de lui, transpirant de souffrance et de haine. La colère qui l'animait le rongeait de l'intérieur. Il n'arrêtait pas de répéter qu'il avait prêté serment. Il avait juré de respecter toutes les personnes, sans aucune discrimination. Il avait juré d'intervenir pour les protéger si elles devaient être affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Il avait prêté serment, et dans ce revire, il n'a pu tenir sa promesse faute de place. Il a dû choisir. Il a dû choisir car il y avait dans le camp trois fois plus de malades qu'il ne pouvait en accueillir. Nous avons évoqué tout à l'heure ce choix. Et ce caractère insupportable du choix. Et je trouve que, voilà, cette écriture, elle est dense, elle est fluide, elle est juste. Et on est absolument emporté par ce que vous écrivez et par la manière dont vous l'écrivez.
Merci beaucoup. Mais encore une fois, il a guidé ma main. Vraiment, j'y crois. Et il est venu me retrouver dans ses rêves. Et très sincèrement, quand j'étais en Italie et que j'étais en pleine écriture, il était vraiment avec moi quotidiennement, à chaque minute, avec cette photo qui le rendait extrêmement présent. Et donc, je rêvais beaucoup, beaucoup de lui. Et du coup, le matin, quand je me réveillais, j'avais une espèce de frénésie. J'avais besoin de retranscrire tous ces rêves, tout ce qui... C'est comme s'il me parlait pendant mon sommeil et je n'avais plus qu'à écrire les sensations qui m'en restaient. Je ne voulais plus que ça s'arrête. Et le jour, donc j'ai reporté mon vol, je sais, plusieurs fois. Et puis un matin, j'ai su qu'il fallait vraiment que je parte. Et ça a été très dur pour moi parce que quelque part, j'ai compris que qu'il allait partir aussi, parce que le livre était terminé, parce que ce qu'on avait à faire, lui et moi, était terminé, et qu'enfin, il allait partir en paix, et que notre travail était terminé. Donc, c'est vrai que je me suis enfermée 3-4 jours après en rentrant. C'était douloureux pour moi de revenir à la vie, de revenir à la réalité. Tout me semblait tellement futile. Oui. C'est très compliqué.
C'est le deuil aussi.
Et faire le deuil. Oui. Faire le deuil, c'est...
Et le deuil, c'est le manque, mais un autre manque que celui du départ.
Exactement.
Oui. Un manque qui est plein, finalement.
Voilà. Le cœur est plein et la pensée aussi. Et grâce à tous ces rêves que j'ai pu faire de lui, maintenant, quelque part, j'ai l'impression qu'on a des souvenirs, lui et moi.
Oui, voilà. Les morts deviennent une partie de notre corps.
Oui.
Quand vous dites au début, seul...
Ne meurt vraiment que ce que l'on oublie.
Que l'on oublie. Hein, ça veut dire qu'on les porte en nous, oui. Qu'on se les incorpore. Ça rejoint des croyances de civilisation très anciennes, finalement.
Oui. Mais pourtant, je n'ai pas été élevée dans une religion catholique... Et il y a une chose, en revanche, à laquelle on croit profondément dans notre famille, c'est le lien et la présence de l'autre qui n'est plus. Le papa de ma maman n'est plus là non plus. Et quotidiennement, il nous rappelle qu'il est encore là. Et mon oncle, donc le frère de papa, vit encore à travers mon père, je le sais. Et c'est plus fort que toutes les religions pour moi, ça.
Oui.
Plus fort que toutes les croyances.
Et ça passe par les sensations plus que les mots,
oui,
d'ailleurs.
Hein, exactement. Oui.
Votre père et votre oncle,
oui.
La scène finale, elle ne passe pas non plus par des mots. Il y a une difficulté à parler.
Oui.
Que peut-être aujourd'hui, on apprivoise mieux.
Oui. Et en même temps, il y a certains individus qui sont dans la capacité de parler, mais qui ont la capacité de transmettre. Par le regard, par le corps, différemment. Le principal, c'est de transmettre.
Oui.
Peu importe la forme. Mais mon père a réussi à me transmettre par les mots parce que c'était nécessaire. C'était nécessaire pour que ce travail de transmission se fasse. Mais ça a été d'ailleurs des moments très, très forts. Mais après ces moments-là, ça a été terminé. On n'a plus parlé comme on a parlé... Dans ces moments-là.
En tout cas, c'est un très beau travail. C'est un travail au double sens du terme, en fait. Un travail littéraire, mais aussi un travail au sens intérieur, au sens presque de parturition, presque.
Oui, hein, mais je pensais pas... Alors, bien évidemment que j'ai toujours travaillé autour du mot, et j'adore le mot, j'adore le... J'ai pas fait ce métier de comédienne par hasard, et je sais que les mots m'ont permis de me libérer, de me libérer à travers des personnages. Voilà. J'avais du mal à me concentrer du coup.
Le travail des mots.
Ce qui est fou, c'est que jamais j'aurais pu envisager d'écrire un roman. Même si le mot était quelque chose que j'utilisais quotidiennement, j'ai traduit beaucoup de pièces anglaises que j'ai voulu jouer en français, donc je les ai traduites. Donc oui, j'ai su travailler autour du mot, mais de là à me jeter dans l'aventure d'un roman, je n'aurais jamais osé. C'est vrai que Robert Laffont m'a rendue légitime en acceptant de publier ce livre. Et quelque part, je me dis aujourd'hui, cette légitimité-là qu'il m'a offerte, il faut que je la mette à rude épreuve et il faut que j'y retourne. Et je me rends compte d'une chose, c'est que vous, lecteurs, et les retours que j'ai m'offrent à croire que mon écriture instinctive, émotionnelle, basée sur le corps, basée sur l'émotion, touche du monde. Donc je sais qu'aujourd'hui, l'arrivée de ce bébé, cet apaisement dans ma vie, l'homme qui partage ma vie aujourd'hui, les événements qui m'entourent sur des lectures de journaux ou autres, font que maintenant j'ai envie. J'ai une envie profonde de raconter des histoires, mais je sais pertinemment qu'elles seront toujours basées sur la réalité. Parce que j'ai du mal à inventer. Et c'est pour ça que le livre touche. C'est que je parle avec mon cœur et que je ne peux inventer des sensations que mon cœur n'aurait pas vécues. Ça, je suis incapable.
Mais c'est le lot de tous les écrivains.
Voilà.
Il me semble.
Je le découvre, du
il
coup.
Me semble. Voilà, exactement. La porte est grande ouverte. Voilà, non,
c'est ça.
Et oui. Alors, sans vouloir vous pousser dans vos retranchements sur un prochain sujet de roman, mais on est heureux d'apprendre que vous allez
oui.
continuer.
Oui, voilà, exactement. Je m'y remets doucement. Après, c'est compliqué parce que comme effectivement, je n'ai pas de méthode, que malheureusement, mon grand-père n'est plus là pour me guider. Il faut que j'arrive à... Alors, j'ai 1 milliard d'idées, 1 milliard d'envies. Ça va être un peu plus brouillon. Je pense que ça va prendre un peu plus de temps. Mais une chose est sûre, c'est que je serai sur une écriture instinctive et que je n'essaierai pas de faire des grandes phrases.
Mais c'est cette sincérité qui oui. touche et qu'on attend de retrouver dans votre prochain roman.
Oui.
Merci Marie Barrault.
Merci.